Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Un podcast Binge Audio.
Tant du point de vue humain que du point de vue économique, les zones rurales françaises ont connu une désertification régulière depuis le début du XXe siècle.
Chaque année, des villages disparaissent, pierre par pierre, après avoir disparu homme par homme.
Qui dit commerce sous-entend maintien de la population dans les petits bourgs ruraux.
Dans la France, des petites villes. Épisode 3, les Vosges, un territoire qui envoie du bois. C'est beau les Vosges du Nord, même sous la pluie. Une fois quitté l'autoroute au nord de Strasbourg, on entre dans le vif du sujet. Des vallons, des petits bourgs avec cheminées qui fument et une forêt multicolore des derniers jours d'octobre. On est dans le Grand Parc Naturel Régional, le PNR, qui compte plus d'une centaine de communes réparties entre le département du Bas-Rhin et celui de la Moselle. Alors c'est beau, oui, mais dans ce territoire rural, principalement forestier, qui vit d'une vieille tradition industrielle, les petites villes sont confrontées, comme ailleurs, à un vieillissement de la population, perte des habitants et les commerces quittent les centres-bourgs. Alors ici, les petites villes du programme Petites Villes de Demain travaillent toutes ensemble avec tout un tas de partenaires locaux. Tout d'abord avec la Fédération des Parcs Naturels Régionaux, alliée de la première heure des petites villes de demain, ou encore la Chambre des Métiers pour valoriser l'artisanat. L'idée ici dans les Vosges du Nord, c'est donc de s'appuyer sur la ressource locale, le bois de la forêt, pour développer tous azimuts un projet de territoire qui va de la forêt jusqu'au métier d'art, en passant par les paysages eux-mêmes. Alors, comment créer une synergie sur un territoire aussi vaste et comment le bois pourrait-il avoir un effet d'entraînement pour toutes les problématiques de développement? D'abord, rendez-vous à la direction du PNR des Vosges du Nord, le parc naturel régional, dans le village de la Petite Pierre, au milieu de la forêt, où les premières équipes du parc se sont installées en 1975. C'est de là qu'on peut à la fois embrasser une partie du territoire, mais aussi des problématiques. Bon, il pleut toujours, mais ça vous l'entendez.
Petite pluie sympathique. Du coup, on peut commencer peut-être juste là-haut. Alors, où est-ce qu'on est? On se rapproche de la poudrière du château de la Petite Pierre. On est sur un château qui a ses premières traces au XIIe siècle et qui a été utilisé et transformé tout au long des périodes et des différentes périodes de guerre. En Alsace, on est sur un territoire où il y a eu beaucoup de chambardements. Et donc voilà, on se retrouve sur la petite terrasse le long des remparts avec une belle vue sur les Vosges du Nord ou en tout cas la forêt de la Petite Pierre.
Je suis Rita Jacob-Bauer, directrice du parc des Vosges du Nord. Le parc naturel des Vosges du Nord, c'est 111 communes qui sont classées par décret. Et à l'intérieur de ces 111 communes, il y a un certain nombre de villes, portes et communes associées. Et aujourd'hui, sur le territoire, il y a à peu près 9 petites villes de demain qui sont en réseau. Et parfois, on regarde le territoire comme un réseau de villes qui sont maillées avec ces petites villes et ces centres urbains qui nous permettent en fait de raccrocher des services avec les villages. Et on se rend compte que les gens, ils fonctionnent vraiment ensemble. Les familles, elles se connaissent très bien d'un côté à l'autre du territoire. On fait à peu près 120 000 hectares et il y a une vraie filiation entre les gens aussi, d'un bout du territoire à l'autre.
Olivier Brault est commissaire à l'aménagement, au développement et à la protection du massif des Vosges.
C'est une forêt qui est assez largement cultivée et qui a pour ligne de conduite la multifonctionnalité, comme on dit. C'est un mot compliqué, mais qui veut dire qu'il n'y a pas qu'un seul usage en forêt. Et que la gestion de la forêt doit répondre à des enjeux économiques de production, doit répondre également à des enjeux de biodiversité, de préservation de la biodiversité, mais également une fonction d'accueil et de loisirs. Alors le loisir, c'est le tourisme, mais c'est aussi parfois la chasse d'ailleurs, hein, c'est le loisir au sens large du terme. Donc la forêt des Vosges est donc une forêt productive aujourd'hui, hein. C'est une forêt qui est exploitée, qui est gérée, qui bénéficie de documents de gestion qui sont mis en œuvre par l'ONF avec l'accord des propriétaires communaux. Il faut savoir également que nous avons encore la chance dans le massif des Vosges, globalement, d'avoir une filière de bois complète. C'est-à-dire qu'on trouve dans le massif, alors bon, la production, on vient d'en parler, mais on trouve également des bûcherons, des entreprises de travaux forestiers. Alors, c'est pas que bûcherons d'ailleurs, parce que c'est aussi des pépinières, c'est aussi des entreprises qui sont spécialisées dans l'accompagnement de la pousse des arbres, hein, c'est tout un tas de choses. Vous avez des scieurs et des transformateurs, et de tout type. On a tout ce savoir-faire. Donc, premier enjeu, donc maintenir, accompagner cette filière et en particulier les petites entreprises, celles qui détiennent ce savoir particulier et assez pointu, qui permet de traiter des espèces forestières particulières. On pense particulièrement au sapin, qui est une des espèces emblématiques du massif des Vosges, mais qui nécessite des techniques de coupe et de traitement de bois un peu particulières pour pouvoir rentrer dans les circuits de construction ou de transformation. Donc ça, c'est le premier gros sujet. Le deuxième sujet, c'est de savoir ce qu'on fait de la sylviculture à l'avenir, hein. Enjeu majeur, que fait-on de ces espaces-là? Quelle espèce replante-t-on? Quel pari fait-on sur l'avenir? Faut-il introduire des espèces exogènes et si on le fait, sous quelle forme? Des plants, des graines, qu'est-ce qu'on sait du patrimoine génétique des arbres en place, de leur capacité d'adaptation? Troisième sujet qui rejoint un peu l'attractivité qu'on évoquait tout à l'heure, c'est de maintenir également une capacité de production à forte valeur ajoutée dans le massif. C'est-à-dire que si on entend maintenir et développer une économie locale, il faut aussi pouvoir produire des produits qui valorisent ces savoir-faire-là et qui permettent de capter de la valeur ajoutée. Donc la forêt, c'est aussi l'endroit où beaucoup de gens pratiquent beaucoup de sports, beaucoup d'activités. Donc tout ça doit s'appréhender, tout ça doit se piloter, tout ça doit se réfléchir, doit se partager.
Le parc est donc à la fois le point de ralliement évident pour toutes les petites villes de demain, mais aussi un point de départ pour articuler différentes politiques territoriales. Toujours dans l'idée de mettre en valeur tout ce patrimoine immatériel qui va des paysages au savoir-faire. Ça paraît un peu abstrait comme ça, donc prenons un exemple. En 2019, le parc a lancé un concours autour du concept de nano-habitat, parti d'une question toute simple qui concernait de l'aménagement des campings municipaux. Rita Bauer-Jacob.
On a essayé, pour répondre à une question qui nous était posée, notamment par des communes sur l'aménagement de leurs campings, de développer des habitats légers de loisirs. Et donc, on s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire avec des bois locaux pour développer ces habitats légers de loisirs? On a fait un concours pour intégrer à la fois un designer, un menuisier, un scieur et d'autres partenaires.
À l'époque, c'est le projet des huttes qui est retenu, comme l'abri ou la cabane en alsacien. Des petites maisons entre 5 et 40 mètres carrés en bois local, imaginées par l'architecte Jean-Christophe Bruat et fabriquées au cœur du parc. Rapidement, l'idée est venue de les sortir des campings et d'en disposer quelques-unes, 11 pour l'instant, mais d'autres sont à venir, le long du GR53, qui attire de nombreux randonneurs tout au long de l'année. Alors là, on s'est déplacé un peu vers l'est et on est allé à Barental, un petit village de 700 habitants. On a chaussé nos bottes et rejoint Gabriel Milochaud, le paysagiste chargé de répartir ses huttes sur le sentier du GR.
On est donc devant une hutte qui est une petite maison comme on pourrait la dessiner avec un toit pointu. Je suis Gabriel Milochaud, je suis paysagiste concepteur. Elle fait au sol 2,25 m par 2,25 m. Et puis, c'est un élément construit tout en bois local, en épicéa essentiellement, et avec une face où on a complètement ouverte, deux faces fermées, hein, et puis un élément en fond qui s'ouvre sur le ruisseau en balcon, avec un plancher qui s'ouvre en partie et qui permet de voir ce qui pousse sous nos pieds. Donc on a des petits objets, ces petites maisons aux liserés rouges et noirs qui sont posées au milieu des Vosges du Nord. L'intérieur, il est modulable et de toute façon, là, cette hutte-là, elle a une forme X et les autres sont déclinés, toujours sur la même structure.
En fait, les hutteux, c'est une proposition qui est faite aux randonneurs comme un substitut ou plutôt un complément aux bancs et aux abris du club vosgien. Mais c'est surtout aussi que tous tiennent. Le bois de la forêt, son exploitation, un projet qui montre des savoir-faire et, in fine, la mise en valeur d'un sentier de randonnée très fréquenté. Et ça a l'air de marcher puisque Stéphanie, une randonneuse allemande qui a attaqué le GR il y a quelques jours, s'y installe justement au moment où on est en train de faire cet entretien.
Vous en avez déjà vu des installations de ce type ?
Ah oui, quelques-uns. On est parti de Wissembourg et on a vu à peu près 5 ou 6. Je pense.
Je voulais savoir ce que vous en pensiez.
Oui, je les aime beaucoup parce qu'ils sont très, très, très jolis. Et ouais. On toujours cherche pour les cabanes comme ça, pour rester et ouais.
Et vous reposer un peu.
Oui.
Depuis l'installation des hutteux, il y a aussi des compteurs qui ont été mis à certains points stratégiques pour voir quelles étaient les fréquentations du GR. Et donc après, on peut extrapoler. On sait que sur certaines hutteuses, des randonneurs ont passé la nuit. Ça nous a été remonté. On sait que, bah, comme vous l'a confirmé tout à l'heure, les randonneurs de passage, ça sert de point de halte, 5-10 minutes, le temps de faire une pause, voire un lieu pour se restaurer, et puis en étant soit à l'ombre, soit à l'abri des intempéries, ou même du vent simplement. Et voilà, donc après, ça aussi, pour certaines, ça pourrait être un point de rendez-vous. Et là, je pense plutôt aux fenêtres sur le paysage, qui sont assez proches des villages, et qui sont pas forcément uniquement sur le chemin de grande randonnée, mais qui sont intégrées dans des boucles plus courtes. Et donc, ça devient des espaces de vie un peu différents. Certaines fenêtres en lisière de village sont des points de rendez-vous des plus jeunes, sont des lieux où on passe du temps.
Le projet a en tout cas généré une véritable activité autour de la fabrication et de la commercialisation des huttes. Made in les Vosges donc, qui sont maintenant proposées à la location mais aussi à la vente aux particuliers pour en faire de véritables habitations, un peu dans le sillage des tiny houses. On a repris notre voiture pour aller cette fois à Lübstein, un peu plus au sud, pour rencontrer Pierre Marc, le développeur de la marque chez le constructeur où elles sont fabriquées. Attention aux oreilles.
Ici, on est sur la partie menuiserie et bénisterie de l'atelier. Donc, c'est là où on va produire tous les meubles, les escaliers, les rambardes, les fenêtres, les choses comme ça. Et puis, on a toute l'autre partie de l'atelier qui est composée à la fois d'un espace scierie. La scierie, aujourd'hui, elle ne tourne pas, mais on est capable de travailler toutes les grumes nous-mêmes. Et puis, la partie charpente-ossature où on va modéliser toutes les charpentes des maisons et concevoir les assemblages des murs.
Notre cœur de métier, c'est de vendre des habitats pour que des gens vivent dedans à l'année. Je suis Pierre Marc, aujourd'hui je suis le chargé de développement de Hutteux. Donc Hutteux, c'est un groupement d'entreprises qui développe un concept de nano-habitat. Alors bien sûr, on a une part qui est à peu près de 40% qui est du secondaire ou du professionnel à destination de la location parce que notre produit s'y prête particulièrement bien, autant d'un point de vue esthétique que d'un point de vue standard de gamme. Mais notre cœur de métier, c'est de trouver des gens qui ont envie de questionner leur usage des surfaces habitables, de réduire leur surface, d'adopter un mode de vie qui est un peu plus minimaliste, et de vivre dedans à l'année. on a travaillé énormément aussi sur la transparence aujourd'hui vis-à-vis de nos clients. On essaye d'avoir une transparence qui est la plus forte possible. Donc ce sont à la fois des valeurs sur qui sont écologiques, que ce soit la filière locale bois, l'absence de béton et puis les traitements chimiques, et des aspects plutôt de responsabilité sociale, que ce soit travailler avec des artisans qui sont qualifiés et qui vont continuer à transmettre leur savoir-faire, mais également travailler aujourd'hui sur une moindre artificialisation des sols, des choses qui sont plus des sujets de société aujourd'hui.
Pierre-Marc et sa femme Maude, qui est architecte, travaillent main dans la main avec cette entreprise centenaire, l'entreprise solaire, qui grâce au concours de Nano Habitat, mais aussi avec les contraintes dues à l'épidémie de Covid, s'est réintéressée au travail du bois massif local.
En fait, l'entreprise solaire, avec l'arrivée de nouveaux bois techniques dans les années 90, finalement, avait un peu délaissé le bois massif. Il s'en servait un peu, mais c'était principalement pour des constructions de patrimoine. Et finalement, avec le Covid, il y a eu des ruptures d'approvisionnement sur ces bois techniques transformés, notamment le lamellé-collé, le KVH, des choses comme ça. Et en fait, nous, on était en train de monter UTE à l'époque où on avait notre objectif de remettre énormément de bois massif dans le projet. On a un peu de lamellé-collé, mais on retravaille beaucoup de bois massif parce qu'on est capable de transformer de A à Z sur le territoire. Ce qui était vraiment notre leitmotiv. Et ils se seront mis à scier pour des autres entreprises de construction parce que le lamellé-collé avait tellement augmenté et qu'on n'avait pas une autonomie en France à s'approvisionner nous-mêmes en lamellé-collé, on dépendait des circuits d'approvisionnement. Le fait de retravailler en massif, d'avoir cette capacité, cette autonomie à découper du massif et à alimenter le territoire est quelque chose d'intéressant pour notre autonomie en France.
En fait, le patrimoine rural, tant l'architecture que ce patrimoine immatériel, autour des savoir-faire en particulier, aujourd'hui trouve un nouvel enjeu, rencontre de nouveaux enjeux à plusieurs titres. Claire Delfos, je suis professeure de géographie rurale à l'Université Lyon 2 et je dirige un laboratoire de recherche qui s'appelle le Laboratoire d'études rurales. D'abord, je pense autour de la redécouverte de matériaux traditionnels, de matériaux plus naturels, et avec eux, bien évidemment, les savoir-faire qui les travaillent. Voilà. Donc, on va repenser l'architecture en bois, l'architecture en terre, ou en pierre, ou en tout cas avec des matériaux qui sont donc naturels. Et à partir de là, on va revaloriser des savoir-faire artisanaux qui contribue à la fois rénover l'existant, mais aussi construire du nouveau bâti avec ces matériaux. Donc, en fait, un double intérêt. C'est un intérêt, patrimonial et paysager, parce que ça s'intègre dans le bâti existant, mais aussi avec une fonction nouvelle, qui est une fonction, écologique aujourd'hui, ou environnementale.
Toujours dans cette idée de tisser des politiques qui font sens par rapport au territoire, on est allé à Bouxwiller, une autre commune de Petite Ville de Demain, qui elle aussi essaye d'articuler entre elles plusieurs problématiques, patrimoine bâti, commerce, tourisme. Ici, sur cette ancienne terre de sorcières, on est dans un cas d'école. La ville, avec ses belles maisons bourgeoises traditionnelles d'Alsace, a vraiment du chien. Mais quand on tend le micro aux quelques commerçants, peu nombreux, il faut bien le dire, à mardi après-midi, on se rend compte que la ville est un petit peu désertée.
À Bouxwiller, on a un patrimoine en or, on a une très très belle ville. C'est dommage qu'on ne sache pas comment la redynamiser et comment la mettre en valeur. Nous avons des petites ruelles, des maisons magnifiques. Je compare toujours ça à... J'aime pas trop le dire, mais aux belles villes, aux villes très touristiques comme Aubernais ou dans le secteur du vignoble.
C'est un vrai défi de maintenir des commerces au centre-ville. Je suis Freddy Stadt, je suis maire délégué de Riedheim, commune associée de Bouxwiller, et en charge du patrimoine, de la culture et du tourisme pour Bouxwiller et ses communes associées. Évidemment, il y a les collèges, les lycées, les écoles, mais c'est plutôt en périphérie. Donc ce centre ancien, qui est très pittoresque, avec ses petites ruelles et tout, a vraiment besoin de magasins, de commerces, de proximité, du quotidien pour le faire vivre. Le patrimoine bâti pour une ville comme Bouxwiller, c'est vraiment notre ADN. Si vous enlevez le patrimoine à Bouxwiller, on est une ville quelconque, qui n'a ni âme, qui est quelque part un peu dénuée de tout son charme. Et ce qui a été vécu peut-être par le passé, parfois comme un boulet, ce patrimoine, surcoût, etc. Actuellement, on a vraiment envie de le mettre en avant. Donc on est devenu la première petite cité de caractère d'Alsace, c'est-à-dire une démarche pour que le patrimoine soit vraiment un vecteur de développement économique du territoire. Ça n'est pas simple, mais c'est vraiment et un réseau et des façons de faire pour que ce patrimoine soit valorisé et valorisant.
Première étape, faire revenir des habitants dans le centre, notamment en permettant de mettre à disposition les logements vides qui sont en général au-dessus des commerces.
Il y a un double travail qui se fait au niveau de Petite Ville de Demain. C'est un travail sur le commerce et sur l'habitat. L'habitat, c'est aider les commerçants, par exemple, à détacher leur commerce de leur logement au-dessus. Souvent, encore à Bouxwiller, les choses sont très liées. Et donc, on aura des aides pour détacher l'un de l'autre. Et évidemment, le volet habitat, c'est attirer des gens au centre-ville, les aider à restaurer des maisons, en partenariat, bien sûr, avec l'intercommunalité, les Bâtiments de France, qui sont très présents, qui nous accompagnent beaucoup, et bien sûr, le Parc des Vosges du Nord, qui nous accompagne sur le côté technique et qui nous donne des conseils, nous aide à avoir des subventions, etc. Donc, c'est vraiment un partenariat multiple qui nous permet de développer et le commerce et l'habitat au centre-ville.
Et puis toujours, cette ambition d'élaborer un projet territorial fort autour du bois. L'idée a donc été de réveiller ce centre-ville un peu éteint en misant tout sur la valorisation du patrimoine local pour se transformer en haut lieu de l'artisanat d'exception. Il y a quelques années, Bouxwiller a donc facilité l'arrivée d'un jeune ébéniste, avec des subventions bien sûr, qui avait l'ambition de restaurer une magnifique maison du XVIIe siècle et d'y installer au rez-de-chaussée la vitrine de son atelier de restauration de mobilier ancien, devenu l'atelier Pfluger, du nom de la maison.
Donc, l'atelier Pfluger est installé actuellement dans une maison patricienne du XVIIe siècle qui appartenait à la commune de Bouxwiller, qu'il avait hérité il y a quelques années. Et donc, la commune, donc, dans le mandat précédent, avait décidé de le vendre, mais avec un projet à la clé. C'est-à-dire, on aurait pu le vendre au plus offrant, mais le choix a été fait de le vendre à un couple de jeunes artisans qui s'attaquent à ce chantier de restauration avec beaucoup de sincérité et je suis presque tenté de dire d'amour parce que quand on les voit travailler en vitrine, on se rend bien compte que la commune a fait le bon choix. C'est vraiment un projet touchant parce qu'ils sont modélisants pour plein de gens. Alors évidemment, en tant qu'artisan, ils ont peut-être plus de savoir-faire que d'autres qui ont peut-être besoin d'accompagnement. Mais ils montrent aussi que c'est possible, qu'il y a beaucoup de travail, mais que le résultat est vraiment à la hauteur des espérances et que c'est simplement splendide.
À l'intérieur, Paul et Axel Siffer, sa compagne qui a rejoint l'atelier, s'affairent autour de la commande d'un client.
Là, on travaille en ce moment sur un ensemble de portes pour un corps de ferme. Après, c'est très varié. On passe d'une porte à un escalier, à des parquets, à de la restauration de mobilier, à des meubles sur mesure, bibliothèque, table, etc.
Paul Siffer.
Nous, on s'est installé sur Bouxwiller. Pas vraiment par choix au début. On cherchait de manière très large dans toute la région Grand Est. Une maison avec la possibilité d'avoir un atelier, donc ce qui nécessite quand même de la superficie pour mettre un atelier bois. L'idée d'avoir une vitrine en centre-ville nous intéressait et on cherchait un bâti ancien à rénover de préférence, plus par volonté personnelle. Et on est tombé ainsi sur cette maison qui est inscrite au monument historique et on s'est arrivé comme ça sur Bouxwiller. Donc l'idée de la vitrine a permis de mettre en avant un savoir-faire artisanal, de pouvoir présenter les projets en cours de fabrication, les projets finis, ce qui nous a permis, là depuis 5 ans, de travailler quasiment que de manière très locale, à moins de 10 km autour de l'atelier. Donc c'était bien au-delà des objectifs. On pensait travailler plus à 20, 30 km, parce que c'est les grandes villes alentour, Strasbourg, Saverne, à Lyonnais. Et finalement, de s'installer dans un endroit avec du caractère historique, c'est très lié à notre travail. Et donc, on a appelé sur tous les bâtis anciens et on a largement ce qu'il faut dans le coin. Et au final, je me suis installé en étant seul et aujourd'hui, on est trois.
Moi, j'étais pas dans le bois, j'ai fait une formation en bijouterie joaillerie. Il y avait du boulot, Paul avait besoin d'aide, donc moi, avec plaisir, je suis venue travailler à l'atelier. Et c'était une matière que je connaissais pas non plus énormément, que j'avais pas eu l'occasion de travailler. Et c'est vraiment un bonheur aujourd'hui de travailler tous les jours ici. Je pense qu'au début, on nous a pris un peu pour des fous à vouloir restaurer cette bâtisse. Et en fait, au fur et à mesure, les gens... Nous ont appris à nous connaître et ont vu qu'on était des bosseurs. À travailler vraiment des heures et des heures pour sauver cette maison. Parce que vraiment, le terme sauver, c'est vraiment le mot. Parce que, à part la façade, il y avait énormément de greffes à refaire. Enfin, elle cachait beaucoup de choses.
Aujourd'hui, l'atelier de Pluguer tient son rôle de vitrine pédagogique sur les savoir-faire autour du travail du bois d'une part, mais aussi de la rénovation des bâtis traditionnels alsaciens, qui sont de plus en plus nombreux. La municipalité espère que l'expérience donnera envie à d'autres jeunes artisans curieux de tenter l'aventure. Une vitraillère s'est installée l'année dernière dans une commune voisine.
Et un nouvel attrait de la part de personnes qui aujourd'hui vont chercher à vivre dans le milieu rural ou s'y installer ou y rester en y créant leur propre emploi.
Claire Delfos, la professeure de géographie de Lyon 2.
Et ce patrimoine immatériel, ces savoir-faire existants, eh bien, c'est vraiment une ressource qui peut aussi permettre de créer des entreprises localement. Ça participe aussi de ce qu'on appelle la relocalisation des activités productives. Donc ça, c'est un premier point. Et la valorisation du bois... en fait étroitement partie. Et à partir du travail du bois, de l'artisanat, mais aussi de l'artisanat d'art. Dans un certain nombre de cas, on est vraiment toujours à la marge entre artisanat d'art et création culturelle, avec ouverture des ateliers, par exemple. Et ça crée une dynamique à la fois de création d'emplois, d'installation, ou en tout cas de maintien de population en milieu rural, mais aussi par l'ouverture des ateliers, la création de routes autour de l'artisanat, par exemple, que peuvent porter aussi les PNR, qu'ils portent souvent, et bien une démarche aussi de tourisme, ou en tout cas d'activités de loisirs de proximité.
Les Vosges du Nord concentrent, comme beaucoup d'autres territoires en France, plusieurs défis à relever. Celui d'un massif montagneux en proie à la transformation de ses espèces, mais aussi d'un bâti rare et remarquable qui coûte cher à entretenir et à rénover quand on a trouvé la main-d'œuvre qualifiée pour le faire. Alors on se dit que paradoxalement, face au changement climatique, à la relocalisation nécessaire d'un certain nombre d'activités, les Vosges du Nord, avec cet immense patrimoine immatériel, ont de quoi riposter. C'était « Dans la France des petites villes », un hors-série Programme B, en partenariat avec l'Agence nationale de la cohésion des territoires et Popsu Territoires. Coordination, Hélène Millet, Pacôme Bertrand, Emmanuel Lebris et Julie Rago.
Thank you. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
I'm Ina Garten. Welcome to Be My Guest, the podcast. One of the best gifts you can give friends is spending time together. But what's even better than that? Cooking with them. On Be My Guest, the podcast, new friends and old stop by my barn for some conversation and great cooking. We talk about food, life, and everything in between. Listen to Be My Guest, the podcast with me, Ina Garten, and join us wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.